Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand et surtout à quel âge devient-on transparent? Un texte de Marie-Claude Giguère, paru le 20 octobre 2025 dans Le Devoir. Quand je suis aux côtés d'un client qui a besoin que je lui ouvre la porte, ou avec un homme atteint de Parkinson qui a parfois besoin d'un coup de main, ou lorsque je suis avec d'autres clients qui ont besoin de soutien moral lorsqu'ils ne comprennent plus le monde qui les entoure, je me demande souvent, quand devient-on invisible simplement parce qu'on a besoin d'aide? Je ne connais personne, ni aucun groupe d'âge, qui n'a pas besoin d'aide, de soutien ou de conseils pour affronter la vie quotidienne à un moment ou à un autre. Personne n'est une île. Nous avons tous besoin de pouvoir compter sur quelqu'un. Alors, que se passe-t-il pour que la personne qui est à mes côtés et qui est clairement la raison de notre présence, au magasin, à la clinique médicale, à la banque, au restaurant, devienne quasi inexistante, comme si elle ne se trouvait même pas dans la pièce? Ma question est sérieuse, cela m'inquiète, et j'aimerais bien comprendre. Quand devient-on transparent? Parfaitement invisible. Est-ce que cela arrive à un certain âge, à un certain moment de notre vie? C'est ce dont j'ai été témoin récemment, à la fin d'une visite chez le dentiste où j'accompagnais une dame de 94 ans. Voici son reçu. Pouvez-vous lui donner, s'il vous plaît? M'a demandé la secrétaire. D'un geste de la main et en tournant la tête en direction de la personne qui venait de recevoir le traitement, j'ai pu lui faire comprendre. C'est son reçu, pas le mien. Vous pouvez lui donner. Elle est juste à côté de moi. À plusieurs reprises, quand je travaille, les gens me disent « Comment va sa vue ces temps-ci? » Demandez-le lui, il est juste là. Voici tous les papiers. Dites-lui de se rendre au guichet pour prendre un rendez-vous. Et si vous lui donniez le papier et lui disiez vous-même « Elle est juste là. » Ensuite, bien sûr, je ferai l'assistante, la porteuse de documents ou toute autre tâche nécessaire. Mais, tout d'abord, permettez à la personne que j'accompagne de prendre part à la conversation qui la concerne et d'être traitée et considérée comme une personne à part entière. À quel moment devient-on transparent? Quand on a des taches de vieillesse sur la peau? Quand il y a une canne ou un déambulateur dans la pièce? Quand une personne ne peut pas se tenir aussi droite qu'avant? Quand on a un peu de mal à entendre? Quand on arrête de travailler? Quand quelqu'un est à nos côtés pour nous aider? Quand la vie va trop vite et qu'on ne s'adresse pas à nous de façon à être sûr que l'on comprenne bien? Dites-moi, s'il vous plaît, quand et pourquoi cela arrive, car je veux comprendre. Quand viendra le moment où nous aurons besoin d'aide, de soutien ou d'un peu plus de temps pour saisir toutes les informations qui nous sont communiquées, je suis certaine que nous apprécierons le fait d'être considérés comme les personnes que nous sommes, des personnes à part entière, et que l'on s'adresse à nous avec respect. Car ce jour viendra, pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Et si l'on replaçait cette personne au cœur de la conversation dont elle est le sujet même? Vous savez, cette personne vulnérable juste à côté de nous qui reçoit le service, le soin. Rendons-leur ce droit, chaque fois, partout, tout le temps. Trop souvent, et dans tellement de situations différentes, je constate avec frustration à quel point les personnes plus âgées deviennent invisibles. Quand cet étrange phénomène de transparence prendra-t-il fin? Aujourd'hui, est-ce possible? Pouvons-nous reconnaître aujourd'hui toute la beauté que nous procurent les personnes plus âgées qui nous entourent, ceux et celles qui ont construit nos routes, nos ponts, nos systèmes, ceux et celles qui ont enseigné à nos enfants et bâti le monde dans lequel nous vivons? Un geste simple qui peut amorcer le changement. Quand cela se produit, juste là, devant vous, je vous invite à rediriger la conversation vers la personne concernée, c'est-à-dire celle pour qui vous êtes présent. Paume tournée vers le haut, dirigez votre main vers la personne à qui l'on devrait plutôt s'adresser. Détournez votre regard de celui qui vous parle pour l'encourager à établir un contact visuel avec la personne, client ou patiente, qu'il est en train de servir, pour qu'il la voie enfin. Pas vous, elle. Vous êtes là pour elle et pour faire en sorte que tout tourne autour d'elle. Apportez votre soutien, mais faites en sorte que la conversation demeure centrée sur cette personne. Encouragez tous ceux qui sont là à la voir, elle, pas vous. Voyons-les. Quand devient-on transparent? Quand on commence à marcher plus lentement? Quand on a besoin d'aide pour certaines démarches? Quand on a de la difficulté à ouvrir une porte ou à remplir un formulaire? Je ne le sais pas, mais je sais une chose. Nous avons tous besoin d'aide à un moment ou à un autre. Et le jour venu, nous voulons être considérés pleinement, respectueusement et avec dignité. Commençons dès aujourd'hui. Redirigeons la conversation vers la personne qui est au centre de notre action. Rendons hommage aux aînés qui ont construit nos villages, qui nous ont élevés et qui ont modelé nos communautés. Regardons-les, voyons-les, parlons-leur, redonnons-leur du pouvoir et soyons reconnaissants. Car un jour, nous aurons nous aussi besoin de quelqu'un à nos côtés pour nous aider. Et ce jour-là, nous voudrons nous aussi être vus. Je vous invite tous à voir la personne devant vous pour ce qu'elle est, aujourd'hui, et non pas pour ce qu'elle a perdu avec le temps. C'était « Quand et surtout à quel âge devient-on transparent? » Un texte de Marie-Claude Giguère, paru le 20 octobre 2025 dans Le Devoir.
Léa Clermont-Dillon, sur les traces de Jeannette. Une entrevue réalisée par Claudia Larochelle, parue le 21 octobre 2024 dans les libraires. Pas moins de 20 % des jeunes Québécois de 18-34 ans estiment que le féminisme est une stratégie pour permettre aux femmes de contrôler la société. C'est ce que révélait en 2023 un sondage effectué par la firme Léger. Devant des résultats aussi alarmants, Léa Clermont-Dillon ne pouvait pas rester les bras croisés. Bien sûr que l'autrice, documentariste et docteur en sciences politiques ne reste jamais les bras croisés, mais cette fois, elle vise l'ascension du sommet de la montagne avec son cinquième livre, l'essai « Salut, ça va ? Dialoguer pour prévenir les violences sexuelles » qui s'adresse surtout aux garçons. Fera-t-il vraiment une différence? L'expédition n'est pas gagnée d'avance, mais le jeu en vaut certainement la chandelle. « Tu me trouves naïve, hein ?» me lance Léa en me voyant tourner les pages de son nouvel opus au ton noir et orangé. Je n'étais pas sûr de vouloir le faire, mais j'ai été inspiré par Jeannette Bertrand. C'est le pari qu'elle a fait toute sa vie. Elle tendait la main. Jeannette parlait à tout le monde, tout le temps, déclare celle qui connaît l'écrivaine et scénariste de presque 100 ans et sur qui elle a fait un documentaire intitulé « Jeannette et filles » en 2021. C'est toujours des femmes qui viennent me voir, qui m'écrivent. Elles sont souvent instruites, super sensibilisées déjà au féminisme et à la question des violences sexuelles. C'est aux gars qu'il faut parler aussi. Comment les rejoindre? Je me suis dit qu'un livre, ça pouvait être accessible, ça pouvait être un bon début, initier des discussions à tout le moins, explique-t-elle. Vaincre la désinformation. Chercheuse affiliée au Centre d'études sur l'apprentissage et la performance de l'Université Concordia, Léa, qui est engagée dans la promotion des relations égalitaires chez les jeunes, se faisait beaucoup parler de l'absence d'outils pour rejoindre les ados dans les écoles secondaires, qu'il y a un immense besoin d'éducation sur différents aspects liés à l'égalité pour tous. Il y a tellement d'enseignants qui me disent à quel point la montée du masculinisme est en train de devenir un fléau préoccupant. À la session dernière, dans mon cours à l'université, certains étudiants avaient des petits frères qui adhéraient à la pensée incel, ces célibataires involontaires qui en viennent à la répression et à la détestation des femmes. Il y a de la désinformation qui passe par des plateformes comme Reddit, TikTok, YouTube. Les jeunes cherchent des réponses en ligne, faute d'en avoir à travers le dialogue, par exemple. Si on ne les prend pas par la main pour développer leur esprit critique, ils iront vers des figures charismatiques vendeuses comme Jordan Bardella. Il y a toute une génération qui ne sait pas ce qu'est hashtag MeToo parce qu'ils étaient trop jeunes en 2017. Bien sûr, ça ne se passe pas juste chez nous, mais ici, on peut faire quelque chose, essayer au moins. Ce texte qu'elle a écrit en pensant aussi à ses deux jeunes enfants, Nina et Elio, on le sent, il vient d'une quête d'espoir. En cette période complexe, cher gars, comment prendre ta place avec empathie et lucidité? Tu peux faire des choses extraordinaires. Devenir un allié, un ami, un chum dévoué, un citoyen engagé, un témoin actif qui ne prend pas à la légère la lourdeur du monde. J'y crois. Et j'ai envie qu'on s'en parle, écrit d'entrée de jeu l'autrice pour annoncer ses couleurs. On sent l'expérience derrière celle mandatée dès 2022 pour offrir des ateliers sur le consentement aux joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, LHJMQ, ébranlée ces dernières années par des dénonciations d'agressions sexuelles. Un dépliant désincarné n'aura aucun effet sur ces jeunes. Il faut parler vrai. Parler avec émotion des impacts des violences dans la vie des victimes, rappelle-t-elle dans « Salut, ça va ». Se mettre à la place des victimes. Développer une compassion et une compréhension plus fines des impacts dévastateurs de certains comportements abusifs. La conscientisation et la prévention devraient passer par là. Au premier rang des émotions à susciter chez ses interlocuteurs, bien sûr, il y a son histoire à elle. Le souvenir de la soirée fatidique de ses 17 ans. C'est ainsi que la conférencière commence par aborder son public, puis dans cet essai, son lectorat. En août 2008, mon patron a tenté de me doigter au coin d'une rue tard le soir alors que j'ai dit non. J'ai finalement porté plainte en 2017 durant le mouvement hashtag MeToo. Ce mouvement m'a libéré comme il a libéré des millions de victimes. Il nous a donné le droit de parler, affirme Léa, dont l'agresseur a finalement été sommé de se livrer aux autorités carcérales après un verdict de culpabilité en cour d'appel du Québec le 28 août dernier. Porter plainte. Un récit fort et juste paru au cheval doux en 2023, rend d'ailleurs compte de l'ensemble des procédures judiciaires telles qu'elle les a vécues. L'art de susciter les frissons. Salut, ça va rassemble pour sa part des échanges avec une large gamme de spécialistes comme la sexologue Estelle Cazelet, la sociologue Anita Sarkisian, Jean-Nicolas, un enquêteur aux agressions sexuelles à Sainte-Julie, l'historienne de l'art Florence Agathe Dubé-Moreau, son amoureux, l'athlète investisseur et médecin Laurent Duvernay-Tardif, etc. Il vulgarise aussi des concepts de consentement, de culture du viol et de masculinité toxique. Mais où les mots sont les plus efficaces, c'est à travers les bouleversants témoignages de victimes, comme celui de Glenn Canning, découvert grâce à sa co-réalisatrice Guylaine Marois, lors de la production de « Je vous salue, salope », leur documentaire confrontant sur la misogynie en ligne. Difficile de ne pas avoir de frisson quand l'homme parle de sa fille, Rete Parsons, jeune ado de la Nouvelle-Écosse, victime d'un viol collectif en 2011. Les répercussions ont été si grandes qu'elle s'est enlevée la vie 17 mois plus tard. Sa douce Ray, qu'il chérissait plus que tout au monde, avait 17 ans. Les autres histoires relatées dans ces pages sont tout aussi terrifiantes. Je ne voulais pas être dans le rationnel et la théorie. Je tenais à susciter des émotions chez ceux qui me liront pour aller les chercher dans leurs tripes. Je l'espère. Est-ce efficace? Le crois-tu? Léa n'est sûre de rien. Elle doute, mais espère. Exactement comme Jeannette, qui, comme elle, a foi en l'espèce humaine. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont des violeurs en puissance. De ça, Léa en est sûre. On dit souvent que les féministes détestent les hommes, que le féminisme est une guerre contre les sexes, un mythe tenace. Pourtant, ce n'est pas vrai du tout. C'est parce que j'aime que je suis féministe. C'était Léa Clermont-Dillon sur les traces de Jeannette, une entrevue réalisée par Claudia La Rochelle, parue le 21 octobre 2024 dans les libraires.
Une 7e limite planétaire a été franchie sur 9. Un texte de l'Agence France-Presse paru le 24 septembre 2025 dans Le Devoir. Le niveau d'acidification des océans a dépassé la limite compatible avec des écosystèmes stables et durables, si bien que 7 des 9 limites planétaires sont franchies, a affirmé mercredi le 24 septembre 2025 l'Institut de recherche qui suit ces mesures. Ce concept de limite planétaire avait été défini en 2009 par une trentaine de chercheurs dans un article intitulé Un espace de fonctionnement sûr pour l'humanité. À l'époque, ils estimaient que l'humanité avait transgressé au moins 3 limites planétaires. Depuis, les bilans annuels de l'Institut de recherche sur le climat de Potsdam, PIK, ont montré une dégradation continue. Celui de 2025 indique que la limite de l'acidification des océans vient d'être franchie. L'océan est en train de s'acidifier, menaçant la vie marine et nous faisant entrer dans des conditions dangereuses avec une tendance qui s'empire encore, ont écrit ces chercheurs. Menace à la formation des organismes marins. Si l'acidité se mesure à l'aide du pH, la référence pour cette limite est la concentration en aragonite, un minéral indispensable à la vie des coraux et animaux marins à coque. Plus l'océan est acide, plus l'aragonite se désagrège. La limite avait été définie à 80% de la concentration à l'ère pré-industrielle et les océans sont descendus sous ce niveau. Le pH à la surface de l'océan a déjà baissé d'environ 0,1 depuis le début de l'ère industrielle. C'est l'équivalent d'une hausse de 30 à 40% de l'acidité, révèlent les scientifiques. Ce changement menace les organismes qui forment des coques ou squelettes en carbonate de calcium, comme les coraux, les mollusques ou des espèces cruciales du plancton. La disparition progressive de ces organismes peut perturber la chaîne alimentaire, s'inquiète-t-il. La principale cause de l'acidification des océans est l'absorption des dioxydes de carbone, CO2, émis avec la combustion d'énergie fossile. Les 6 autres limites déjà dépassées concernent le changement climatique, le CO2 dans l'atmosphère, l'intégrité de la biosphère, extinction d'espèces et appropriation des ressources par l'humanité, l'usage des sols, déforestation, le cycle de l'eau douce, zone touchée par la sécheresse ou les inondations, les cycles biogéochimiques, ajout d'engrais et pesticides, et l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, plastiques et autres produits chimiques industriels. Les 2 limites planétaires non franchies sont les aérosols dans l'atmosphère, pollution de l'air, et le niveau d'ozone dans la stratosphère. C'était une 7e limite planétaire a été franchie sur 9, un texte de l'Agence France-Presse paru le 24 septembre 2025, dans Le Devoir.
Corps fantôme au théâtre Jean Duceppe, devoir de mémoire. Un texte de Denis Daniel Boulay, paru le 25 septembre 2025 dans le magazine Fugue. L'histoire des personnes LGBTQ+ fait partie de l'histoire du Québec, de la petite comme de la grande. Effacée, oubliée, beaucoup s'efforcent à la redécouvrir, à la rendre visible, à la préserver. Elle se doit d'être transmise aux nouvelles générations, indépendamment de l'orientation sexuelle et du genre. Et quoi de mieux que l'art, ici le théâtre, pour ressentir collectivement, au-delà d'une thèse aride et froide, la puissance et l'originalité de cette histoire de minorité. Pour ne pas oublier, certes, mais aussi pour éviter que les liens avec le passé et les générations ne s'effilochent. Corps fantôme. Violence et résistance. Nous sommes à Montréal, au début des années 1990, avec en toile de fond le sida, les descentes policières et une série d'hommes gays assassinés. Comment s'organiser alors pour résister et faire entendre une voix différente? Le projet est ambitieux, mais à la hauteur de l'audace de celles et ceux qui en sont à l'origine, soit Maxime Carbonneau et Danny Boudreau. Ambitieux puisqu'il réunit 8 personnes à l'écriture d'un texte qui sera joué par une quinzaine de comédiens et comédiennes. En fait, tout commence en 2020, lors du premier confinement. On pouvait voir sa famille, mais on ne pouvait plus rencontrer la famille choisie. Cela nous a fait prendre conscience de l'importance des liens. Par exemple, on ne pouvait plus voir Claude Poisson autant qu'avant, alors qu'il était très important pour nous, avance Maxime Carbonneau. C'est alors que nous avons réfléchi à ce que représentait la transmission et au besoin d'en savoir plus sur ce qu'était le Montréal gay et culturel avant notre génération. Le nom de Claude Poisson est revenu souvent au cours de l'entrevue. Le comédien, metteur en scène et directeur du théâtre Denise Pelletier, décédé en juin dernier, était un ami très proche de Danny Boudreau et de Maxime Carbonneau. Sur ce projet, on a passé des nuits entières à écouter Claude nous raconter des histoires, à écouter des vinyles, raconte Danny Boudreau. En fait, il a servi de catalyseur, même s'il n'a pas participé ensuite à toute la recherche et à l'écriture. Présenter sur scène un moment marquant de la communauté. Danny Boudreau et Maxime Carbonneau ont en tête « Angels in America », dont la pièce puis la mini-série ont connu un grand succès. En France, il y a eu le film « 120 battements par minute » ou encore en Suède « N'essuie jamais de larmes sans gants » qui se situait dans les années 1980, mais au Québec, nous n'avions rien, poursuit Danny Boudreau. Maxime Carbonneau a donc constitué un collectif de 8 auteurs-autrices avec un mandat exigeant, consulter des archives, notamment aux archives gays du Québec, et de rencontrer des témoins qui avaient connu la naissance du village, fréquenté les bars et participé à la vie nocturne. Nous souhaitions une personne, à la fois pour l'écriture et pour être sur scène, qui avait vécu cette période-là, précise Maxime Carbonneau. Christian Fortin, un de nos amis, a été un témoin et un participant de cette époque, un des premiers à porter le flambeau. Pour Christian Fortin, l'exercice fut confrontant, se replonger dans sa propre histoire tout en étant heureux que cette période ne tombe pas dans l'oubli. Au début des années 1990, j'avais 20 ans et j'arrive à Montréal. Je deviens serveur dans un bar du village et je vis la nuit comme beaucoup d'autres hommes gays. Je connais cette histoire par cœur, même si malheureusement la plupart de mes amis de l'époque sont morts, raconte-t-il. Le comédien a participé à l'écriture et se retrouve sur scène. On ne parlait pas de cette réalité dans les grands médias. Il y avait quelques figures un peu caricaturales comme Douglas Léopold ou Michel Giroir à la télévision, mais on ne parlait pas, ou très rarement, de la réalité des gays, des lesbiennes, des personnes trans. Le sida, la descente policière au sex-garage, les meurtres inexpliqués dans le village deviennent alors le ferment d'une résistance des communautés LGBTQ qui mènera à la création du comité « Dire enfin la violence » visant à prévenir les agressions contre les gays et les lesbiennes et à accompagner les victimes. Sur scène, les 5 protagonistes qui ont été à l'origine de ce comité seront incarnés Douglas Buckley Couvrette, décédé en 2002, Roger Leclerc, Michael Hendricks, René Leboeuf et Claudine Metcalfe, lire l'entrevue avec Claudine. Corps fantôme est une pièce en 2 actes, précise Danny Boudreau. Dans le premier, on présente surtout la vie gay de Montréal avec en toile de fond le sida, bien évidemment, mais ce n'est pas le sujet principal. Dans le second, c'est plus politique, puisqu'on parle du commencement d'une résistance, de la relation entre la police et les communautés, mais aussi avec les politiciens. En fait, d'une communauté dont chaque membre est isolé, mais qui va commencer à se souder pour obtenir une reconnaissance. Une troisième couche peut être lue comme un trailer, puisqu'il y a des meurtres de gays auxquels la police n'accorde que peu d'importance. Il faudra la détermination et la persuasion de Michael Hendricks pour que les autorités commencent à envisager l'hypothèse d'un tueur en série. Un travail d'équipe. Comment, par un travail collectif, arriver à une pièce et un texte cohérent qui reflète l'apport individuel tout en l'insérant dans quelque chose de plus grand? La réponse appartient aux deux artistes qui ont créé leur compagnie, La Messe Basse, et qui ont une vision singulière et particulièrement parlante de ce que doit être le théâtre. Travailler en équipe ne nous est pas totalement étranger, commente Maxime Charbonneau. Pour nous, le processus de création doit toujours être à l'image du spectacle que nous voulons faire. L'un ne va pas sans l'autre. Avec toutes les contraintes que nous nous sommes données, il y a eu un travail dramaturgique extrêmement rigoureux sur la structure du texte, sur la temporalité, sur les dialogues. Danny Boudreau renchérit. On dit toujours que le théâtre transforme le public, mais pour moi, c'est plus que cela. Il faut que les comédiens et comédiennes soient aussi transformés par la matière qu'ils et elles abordent et que l'on sente cette transformation sur scène. Les seuls rôles qui m'attirent comme comédien, ce sont ceux qui me transforment profondément. Sinon, cela ne m'intéresse pas. Avec Corps fantôme, c'est une partie d'une immense fresque invisibilisée, oubliée, qui se retrouve sur scène, mêlant la grande et la petite histoire des communautés LGBTQ+. Loin d'être une simple photographie, on y retrouve des références à une histoire plus ancienne, tout en entrant en résonance avec ce que nous vivons aujourd'hui. Elle révèle les fils conducteurs de cette mémoire qui n'ont jamais été rompus, simplement trop souvent enfouis. Corps fantôme, peut-être. Alors souhaitons qu'ils viennent nous hanter longtemps pour ne pas oublier. Corps fantôme, du 22 octobre au 22 novembre 2025, au Théâtre Jean Duceppe. C'était Corps fantôme au Théâtre Jean Duceppe, devoir de mémoire. Un texte de Denis Daniel Boulay, paru le 25 septembre 2025 dans le magazine Fugue.